qui veulent suivre nos petites sœurs là-bas. Voilà. C'est bien. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de certaines réalités, parce que nous vivons dans une réalité, mais tous les hommes ne vivent pas dans la même réalité. Il y a plusieurs réalités. Il y a les réalités humaines, les réalités spirituelles, et où est-ce que nous sommes au travers de tout ça? C'est ce qu'on va essayer d'un petit peu de regarder aujourd'hui. L'homme, c'est pas nouveau. Pardon, hein. J'ai un chat. Puis le chat, j'arrive pas à l'avaler. La nature de l'homme. On le sait que depuis la chute d'Adam et Ève, l'homme vit quelque chose que Dieu n'a pas voulu. Et tous les hommes sont soumis à cette réalité-là. Pourtant, on vient au monde, on grandit, on va à l'école ou pas, on devient adolescent, l'âge un peu bêta, on fait un peu tout et n'importe quoi, et puis on devient des adultes. Et puis, la réalité de la vie est là, devant nous, prendre nos responsabilités, travailler ou pas, ce sont des choix. Ce sont des choix humains, mais il faut vivre. Et la réalité ici-bas, c'est que c'est dur. Si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent, je ne mange pas. À moins qu'au fond de ma tête, j'ai des idées spéciales pour tirer de l'argent à droite à gauche. C'est comme ça. C'est la nature humaine. Ça s'appelle le péché, tout simplement. Dieu ne nous a pas fait pour ça. Dieu a créé l'homme dans son amour, à son image. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, l'homme ne reflète pas toujours l'image de Dieu? Certains hommes, oui, je pense. Ceux qui ont rencontré Jésus, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ne sont pas livrés à eux-mêmes, ceux qui ont une relation avec Dieu. Tout ça fait une grande différence. Est-ce que ça veut dire que ces hommes sont parfaits? Non, parce que nul n'est parfait. L'imperfection fait partie de notre statut humain. On sera dans la perfection lorsqu'un jour ce corps corruptible sera changé en un corps incorruptible. C'est intéressant ce que dit la parole de Dieu. Et c'est bien de plonger son regard dans tout ça. Donc, le problème de l'homme, c'est le péché. Le péché, c'est le cancer spirituel de l'homme. C'est sa destruction, puisque on sait très bien que le salaire du péché, c'est la mort. Or, Jésus est venu pour apporter la vie. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je marche dans le chemin de la vie ou est-ce que je marche dans le chemin de la mort? Ça, c'est ce que tous les hommes devraient se poser comme question. Le problème, c'est que les hommes sont absorbés par tellement de choses. Dans ce monde, il y a tellement de choses attrayantes et destructrices aussi. Parce que le diable est venu voler ce que Dieu voulait créer. Hein? Il est le voleur. Il est celui qui cherche à attraper les brebis comme un loup pour détruire ses brebis. Mais Dieu est plus fort que ça. Dieu est bien plus fort que ça. Donc, si on est intelligent et que Dieu vit dans notre cœur, c'est pour ça qu'on est intelligent. On est intelligent quand Dieu vient dans notre vie. Avant, on n'est pas intelligent. On fait tout et n'importe quoi. Des imbécilités. J'en ai fait plein. Puis un jour, Dieu est venu dans ma vie et il a changé tout ça. Encore une fois, Pas dans la perfection, parce que je ne suis pas dans la perfection du tout. Mais j'aspire à la perfection. Je la recherche. Je cherche vraiment de dire, Seigneur, fais de moi l'être que tu veux que je sois. Et c'est une prière qu'on devrait tous faire quelque part. Dieu, fais de nous l'homme que tu veux que je sois, ou la femme que tu veux que je sois. Et comment on va y arriver? C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que Pierre nous dit, il nous dit, c'est dans 1 Pierre 2,11, je ne sais pas si on va le voir sur le tableau, c'est la trouver la petite... T'as trouvé, Daniela, le papier? Pas trouvé? Ah, c'est pas grave. Je vais vous le lire. Pierre dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Ah, les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Qu'est-ce que c'est que ces convoitises? On peut se poser des questions à ce sujet-là, parce que les convoitises, souvent, on a vite fait de classer ça dans un tiroir en disant les convoitises charnelles, c'est les convoitises sexuelles, c'est l'adultère, c'est de chercher... voilà, on a un petit peu englobé tout ça dans l'histoire du sexe. Mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas que ça, ça en fait partie, mais ce n'est pas que ça. On peut convoiter plein d'autres choses. On peut convoiter une vie facile, une vie bonne où je peux m'occuper que de moi, vivre pour moi, de me payer des voyages pour moi. On peut rêver à tout ça, ce sont des convoitises. Rêver à la plus belle voiture que j'ai jamais eue, que je pourrais jamais avoir, mais qu'est-ce que j'aimerais l'avoir? Comment je vais faire pour l'avoir? Les hommes pensent à ça tout le temps. En tout cas, les hommes qui sont livrés à eux-mêmes. Je ne parle pas des chrétiens. Donc, c'est important de savoir ça. Et Pierre nous avertit, nous dit, faites attention les gars, je vous exhorte là, parce que vous êtes étrangers et voyageurs sur la terre. Dès l'instant où on a rencontré Jésus, on a pris le train pour une autre patrie, pour un autre lieu. Et ce lieu, ce n'est pas ici-bas. Ce lieu, ce sera le royaume de Dieu, avec Jésus, pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il dit, mais vous êtes étrangers, voyageurs sur la terre. Abstenez-vous des choses qui font la guerre à l'âme. Parce que si mon esprit est occupé à autre chose qu'à vouloir glorifier le Seigneur dans ma vie, alors je vais perdre mon temps. Je vais perdre grandement mon temps. Et puis, dans mon âme, il va y avoir une guerre. Une guerre qui ne va pas me laisser tranquille. Donc, c'est pour ça que Pierre nous prévient. Est-ce que nous réalisons vraiment que Dieu a mis le comble de son amour en envoyant Jésus pour accomplir sa justice? Vous savez pourquoi l'homme a un problème? Dieu est amour. Il l'a créé. Dieu a péché. Dieu est juste. Et tout péché mérite d'être payé, d'une manière ou d'une autre. Et Dieu dit, c'est pas possible. Les hommes, ils peuvent pas y arriver. Il y a eu deux alliances. Il y a eu une alliance, c'était, on va dire, les hommes étaient sous la loi. C'est la première alliance. Pourquoi Dieu a donné la loi aux hommes? Simplement pour leur expliquer ce que Dieu aimait réellement. Il leur dit, si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, alors c'est super, parce que c'est ce que j'aime. Et quand on analyse la loi, toute la loi, on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'amour accomplit la loi. Donc, être capable de pouvoir réellement aimer comme ça, ben c'est impossible pour les hommes. Les hommes, ils n'y arrivent pas. Même le plus grand des religieux qui essaierait par tous ses moyens de tenir à la lettre chaque mot de la loi de Dieu. Il n'y a pas 10 commandements. Hein. La loi, c'est plus que 10 commandements. Il y a 600 et quelques lois pour le peuple juif. C'est énorme. Et la Bible nous dit clairement que si tu manques d'un iota ce que Dieu te demande, t'es fichu. T'es fichu. Si tu dis aux autres, ne commets pas l'adultère, et puis Tu es toujours dans la convoitise dans ta tête d'une autre femme. Ça veut dire quoi? Tu ne le commets pas, mais tu es dans la convoitise. Or, Jésus dit, celui qui convoite une femme a déjà commis l'adultère avec elle. Vous voyez où est la réalité de l'homme aujourd'hui? C'est pas facile. Moi, j'ai un certain âge, donc tout ça, je regarde ça de loin maintenant. Mais j'étais jeune, et je sais à quoi j'ai été confronté, et je sais à quoi Dieu m'a gardé. Merci Seigneur. C'est lui qui va faire ces choses-là, c'est lui qui va nous aider. Alors donc, le péché de l'homme a besoin d'être justifié. La seule personne qui peut justifier le péché de l'homme, c'est Jésus. Hébreu nous dit clairement que presque tout est purifié avec du sang, mais sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, déjà à l'époque de la loi, on couvrait le péché une fois l'an ou en sacrifiant des animaux. Mais on couvrait simplement. Et Dieu a dit, ça ne peut pas continuer comme ça, je vais envoyer Jésus. Et Jésus est venu en tant qu'homme, il a vécu les mêmes tentations que nous on peut vivre, et on l'a crucifié, on l'a cloué sur une croix. Il dit que la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Jésus n'a pas été accepté. Pourquoi? Parce que les ténèbres étaient profondes. Mais Jésus a été crucifié, il est mort, mais il est ressuscité. Et il est le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, tous ceux qui reçoivent cette lumière sont pardonnés. Et le pardon de Dieu, ce n'est pas une couverture de notre péché. Dieu ne couvre pas notre péché. Il fait beaucoup plus que ça. Il efface la dette. Il efface la dette. Et il l'efface complètement. Donc quand je suis en Christ, ma dette est effacée. Quelle liberté de rentrer dans cette réalité-là. Quelle liberté. Parce que quand on n'est pas rentré dans cette réalité-là, on est toujours sous une sorte de culpabilité. En disant, ouais, ok, j'ai fait ça de mal, mais je vais faire ça de bien pour couvrir ce que j'ai fait de mal. Mais ça ne marche pas comme ça. Mais tous les hommes raisonnent comme ça. Tous les hommes veulent couvrir leurs mauvaises actions par des bonnes actions. Et ça, c'est ridicule. Ça amène à rien. La seule personne qui peut effacer votre dette, votre péché, c'est Jésus. Et ça, c'est grandiose. C'est extraordinaire. Alors, vous allez me dire, c'est compliqué quand même parce que... Ok. J'ai rencontré le Seigneur, j'avais 23 ans. En forme, costaud, toutes mes dents, avec plein d'idées dans ma tête, visiter le monde, faire de la musique, faire plein de choses. Hein. Et Jésus est venu dans ma vie. Et puis ça a transformé quand même certaines choses. Ça m'a renouvelé, j'ai dit, waouh, la vie a un sens maintenant. Dieu a donné un sens à ma vie. Et j'ai cherché ce que Dieu aurait ou aimerait que je fasse. Et quand on cherche, on trouve. Et Dieu m'a dirigé sur son chemin jusqu'à aujourd'hui, mais ça n'a pas été un long tapis rouge. Ce n'est pas comme les vedettes qui, à Cannes, je ne sais pas si vous connaissez le festival de Cannes, sûrement tout le monde connaît ça, où on déroule un tapis rouge et les vedettes montent les escaliers sur le tapis rouge et tout va bien, et on les photographie, les filles sont belles, enfin, etc., etc. Non, la vie avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça. La vie avec le Seigneur, c'est des bénédictions dans les tribulations. Eh oui, c'est écrit. Des bénédictions dans les tribulations. On vit tous des tribulations, d'une manière ou d'une autre. Et moi, je pourrais vous en raconter quelques-unes de mes tribulations. Mais Dieu a toujours été présent. Dieu a toujours été fidèle. Dieu a toujours soutenu, élevé, aidé à sortir des difficultés. Il y a toujours eu, dans les tunnels les plus sombres, une sortie. Jamais un cul-de-sac. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Dieu nous a appelés à la liberté. C'est ce que Galates 5 nous dit, hein, au verset 13, il nous dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs des uns des autres. Ah, ça c'est déjà une piste à prendre. Hein? On a été appelés à la liberté. Dieu nous donne la liberté. Hein? Mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. C'est ça qu'il est en train de dire. Ne faites pas n'importe quoi. Vous êtes dans la liberté. Utilisez cette liberté par amour. Soyez serviteurs les uns des autres. Recevoir son prochain. L'écouter. Alors, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a vraiment ceux qui viennent vous trouver avec ce désir d'avoir une solution, d'être soutenu spirituellement. Ils ne demandent rien. Ils sont là. Et ça, c'est super parce qu'on peut prier. On peut chercher la face de Dieu. Et on peut demander à Dieu de pourvoir aux problèmes de la personne. Il y a ceux-là. Puis il y a les autres. Il y a les sangsues. Vous connaissez les sangsues? Vous avez déjà traversé un ruisseau et puis chopé une sangsue à la jambe? Waouh, ça fait mal, hein? Ça pompe le sang. Et Dieu nous demande d'aimer. Et nous demande d'aimer même les sangsues. Eh oui, c'est là où est toute la difficulté. Où est ton amour? Jusqu'où il va? Est-ce que tu as donné des limites à ce que l'amour de Dieu t'a donné? Parce que on a notre amour qui est en nous, c'est une capacité humaine d'aimer. Hein, des gens qui ne connaissent pas Jésus arrivent à aimer, hein, et faire des choses bien. Hein, mais l'amour de Dieu, waouh, elle n'a pas de limite. Elle ne s'arrête pas à là où ça fait mal, à là où ça blesse. Elle ne s'arrête surtout pas là où on commence à juger les gens. Ah, celui-là, il me casse les pieds, il est toujours venir me réclamer quelque chose. Waouh, ça commence à bien faire, c'est pénible. C'est vrai que c'est pénible. Mais Dieu, il te dit, aime. Alors, comment faire? C'est là la grosse question. Comment faire? Comment dépasser nos limites humaines? C'est Zacharie qui nous dit ce qu'il faut faire. Zacharie 4, au verset 6. Il dit, alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il y a des hommes qui se croient très très forts. Ils disent, pour moi, rien n'est impossible. Je peux aller à l'autre bout du monde, je peux construire tout ce que je veux. J'ai la force, c'est en moi. Non. Dieu, il dit, c'est pas ça. Il dit, c'est surtout pas ça, parce que si tu t'appuies sur tes propres forces, tu n'iras pas très loin. Tu iras un bout, tu feras une étape, mais tu n'iras pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Dieu dit, c'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Donc, le secours réside dans l'esprit de Dieu. Et vous avez reçu l'esprit de Dieu. Encore faut-il le laisser se manifester. Encore faut-il l'écouter, lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? C'est ça la relation avec le Seigneur. C'est prendre du temps dans ta chambre, tu fermes ta porte, tu es là, seul avec lui, avec la parole de Dieu, tu penses à Dieu, tu penses à Jésus, tu lis la parole, et puis tu dis ce que tu as sur ton cœur, tu lui parles. Pas simplement de tes problèmes, parce que Dieu les connaît, tes problèmes, finalement. Il les sait, mais avant même que tu les aies, il sait que tu vas passer par là. Mais Dieu peut nous révéler des choses sur lui, sur le royaume, sur son caractère, sur qui il est vraiment. Et ça, c'est dans ces moments de relation de cœur à cœur avec Dieu qu'on va le découvrir. Alors comment faire? Comment faire? Parce que la Bible nous parle de sanctification. Mais qui c'est qui se sanctifie? C'est moi? C'est moi qui vais me sanctifier? En me disant, ouais, bon, je me mets à part. Non, la sanctification, c'est Dieu qui nous met à part. C'est Dieu qui nous met à part et c'est Dieu qui met le doigt sur les choses qui lui déplaisent. Et quand il met le doigt sur les choses qui lui déplaisent, non seulement il met le doigt, mais il donne la capacité de changer l'histoire. Donc, c'est là où c'est extraordinaire. Galates 5, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Il est facile de tomber sous le joug de l'esclavage de l'ennemi, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, vous allez le ressentir très facilement. C'est très facile à repérer. Dès l'instant où vous commencez à dire « Ouais, l'Église, bof. Ouais, j'y vais, mais par habitude, mais bof. » On commence à raisonner d'une manière où on ne se plaît plus trop. On aime bien les frères et les sœurs, on les rencontre. Mais on sent qu'on est en train de se détacher de quelque chose. Pourquoi ? Parce que l'ennemi est en train de vous mettre sous son esclavage. Vous remettre sous son esclavage. Je vais vous raconter mon histoire. J'ai rencontré Jésus, j'avais 23 ans. C'était super. Les 6 premiers mois, c'était excellent, génial. Et je me dis, waouh, maintenant je vais jusqu'au bout avec lui, ça va être magnifique, ça va être vraiment génial. Puis, vous savez, l'ennemi nous connaît. Hein. Il sait comment nous approcher. Et je jouais dans des groupes de musique avant d'être converti. Il y a un gars qui vient me voir, il me dit, « Ah, Denis, j'ai monté un nouveau groupe, tu ne veux pas venir jouer de la basse avec nous, etc. » Je dis, « Je ne sais pas, je vais réfléchir, peut-être. » Et puis, je me suis laissé amorcer la convoitise, parce que c'était un gars qui était quand même relativement bien connu, et je me disais, « Waouh, ce serait bien de jouer avec lui, il n'y a rien de mal d'aller faire de la musique avec ce gars-là. » Et puis de jouer avec lui, on va faire plein de concerts, on va faire plein de choses. Je vais gagner ma vie aussi un peu avec ça, ça va être génial. Et je me suis laissé avoir. J'ai dit oui. Le problème, c'est que très vite, j'ai commencé à glisser, à plus trop être intéressé par l'Église, par les frères et sœurs. Par contre, je retrouvais mon ancienne vie, qui était là, qui m'attendait. Quelque part. Et j'ai commencé à vraiment repartir. Et puis, pendant 6 mois, j'ai tourné le dos à Dieu, sans le savoir. Parce que quand le diable met le grappin sur votre vie, tu ne le sais pas forcément. Et là, je ne le savais pas. Je me disais toujours chrétien au fond de mon cœur. Hein. Ce n'était pas grave si une fois ou l'autre, je fumais un kéké, ou je buvais un coup de trop, ou voilà, ce n'était pas grave. Je tournais le dos à Dieu. Parce que j'avais plus la joie d'être avec les frères et sœurs. J'avais plus la joie de participer à la communauté chrétienne, de m'impliquer, parce que c'est ça l'histoire. On n'est pas des consommateurs, le corps de Christ. On est là pour s'impliquer dedans. Parce que sinon, ça n'a pas de valeur. Si vous impliquez pas, vous allez être des consommateurs comme on va au cinéma, on s'assoit, on regarde le film, c'était beau, on s'en va. L'Église, ça peut être comme ça. Mais il ne faut surtout pas que l'Église soit comme ça. L'Église, c'est un endroit où on se rencontre les uns les autres, on apprend à se connaître, on apprend à s'apprécier, on apprend à s'aimer et on apprend à vivre ensemble. Parce que pour le moment, tout va bien. Hein. Le jour où on est persécuté ici... Hein, le jour où il faut qu'on aille se réfugier au fond des tsingis. Hein? Ça va être une autre histoire. Hein? Ça va être une autre histoire. Nous, on y va avec Angie tous les mois parce qu'on se prépare déjà à ça. Mais la réalité, elle est là. On a besoin de se connaître. On a besoin de s'entraider. On a besoin de voir... Parce qu'on s'éclaire aussi les uns les autres. Nous sommes la lumière de Christ est en nous. Donc si on vit Christ, si on est dans la transparence les uns avec les autres, eh ben on s'éclaire les uns les autres. Et des fois, en discutant avec un frangin ou une frangine, d'un seul coup je dis « Oh purée, j'ai jamais vu ça comme ça ». Mais elle a raison. Elle a raison. Des fois, on reçoit des révélations comme ça de la parole de Dieu en discutant avec les uns. Et l'avantage d'être ensemble et de discuter, c'est pas de discuter du beau temps ou mes dernières péripéties au travail ou je sais pas quoi. Non, c'est, ce qui est bien, c'est de discuter de Dieu. L'Église, c'est un endroit où on peut parler de Dieu, on peut discuter de Dieu, on peut partager sur les choses de Dieu. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, j'ai été pendant 6 mois mal barré, comme on dit en français. Et puis, un soir, une nuit, j'ai pas dormi. Pas dormi, tout ça tournait dans ma tête, parce que, vous savez, comme Dieu a mis sa main sur votre vie, il va pas vous lâcher comme ça. Hein. Parce que, quand il nous a trouvés, vous savez ce qu'il a fait ? Il a inscrit notre nom dans le livre là-haut. Et s'il a inscrit notre nom, c'est pas pour l'effacer. Il veut pas l'effacer. Il est là. Donc il va pas te lâcher. Il va pas te lâcher et il va te chercher jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé. Je passe cette nuit horrible avec plein de choses dans la tête. Il s'est passé plein de trucs. Et le matin, fatigué, je me dis, ça peut plus durer comme ça. Je prends ma voiture. J'ai une vieille 4L toute pourrie. Je suis parti voir le pasteur. Et là, je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, il faut que je te parle. Alors il m'ouvre la porte, il me dit, oui, rentre, Denis. Il dit, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ben oui, je dis, c'est pour ça que je suis là. Je sais, on va causer un peu. Et puis on a causé. Je lui ai tout dit, tout déballé. Vous savez qu'on a appelé à être transparent. Et transparent, c'est être capable de déballer. Il ne faut pas déballer tout à n'importe qui. On s'entend bien. Mais il y a des gens dans l'Église à qui vous pouvez ouvrir votre cœur et dire les choses. Il suffit de savoir à qui on parle. Et je lui ai dit, et je savais à qui je parlais. Et puis il m'a dit, Denis, c'est super, on va prier. Et on s'est mis à prier. C'était en 1977, ça. Hein, il y en a ici qui n'étaient pas nés, peut-être. C'est Et il me dit comme ça, il me dit, Denis, tu seras missionnaire. Je lui dis, il est fou. Pourquoi il me dit une chose comme ça? Et tout de suite, j'avais l'image du missionnaire avec sa Bible sous le bras, puis sur un cheval ou un âne. Je dis non, moi je veux pas ça. Je veux vraiment pas ça. Et puis moi je dis rien, hein, je lui dis pas. Hein, je dis bon, ouais, c'est bon, on verra, hein, Seigneur. 7 ans après, je partais. 7 années plus tard, j'étais prêt à partir et je partais pour la première fois en Afrique, au Niger, avec ma femme et Priscille qui est ici, qui avait 8 mois. Donc, c'est là qu'on voit que Dieu a un plan et Dieu sait et tout ça. Alors c'était super parce que Dieu ne m'a pas donné un âne, mais il m'avait donné un avion. Je travaillais avec la MAF, donc j'étais content hein, de partir. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Galates 5, 22 nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté et la fidélité. C'est un programme, hein ? Le fruit de l'esprit, hein, ça veut dire que ce n'est pas votre fruit comme ça qui tombe tout seul de l'arbre. C'est le Saint-Esprit en vous qui vous permet. C'est son fruit. C'est comme un manguier. Un manguier, il a un fruit ça, qui s'appelle la mangue, vous savez, comme moi. Mais elle vient en son temps, elle vient à son moment. Et nous, c'est pareil, l'esprit en nous prend du temps. Mais son fruit, c'est la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté et la fidélité. Ah, c'est un beau programme. Et c'est Dieu qui le fait. C'est ça la sanctification. Alors, Dieu nous a laissé son Esprit Saint. Et il nous a laissé un manuel, la Bible. Parce que faut faire attention comme on lit la Bible. Vous savez, il y a un passage qui dit « La lettre tue, mais l'esprit vivifie. » La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça va? Vous me suivez là quand je dis ça? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça veut dire que si je lis simplement la lettre, sûrement que je ne vais pas y comprendre grand-chose, ou au pire, ce que je vais comprendre, c'est que je suis condamné et que je dois suivre la loi. Par contre, l'esprit vient en moi, va me vivifier, va ouvrir mes yeux, mon esprit, et va me montrer que Dieu a préparé un autre chemin en Jésus-Christ qui m'amène à la liberté. C'est la réalité. Il y a eu deux alliances. La première, c'est la loi. On a vu tout à l'heure. La deuxième, c'est la grâce. La loi n'est pas annulée, elle existe toujours. Elle est là. Elle est là pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Elle est là aussi pour nous, parce qu'elle est, elle est un bon moyen de nous rappeler ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. C'est un bon pédagogue. Mais ce n'est pas le salut. Le seul salut, c'est la grâce, c'est Jésus. C'est ce qu'il a accompli pour nous. Donc c'est bien d'avoir un regard dans l'Ancienne Alliance, parce qu'il y a des bonnes choses à tirer, mais ce qui est mieux, c'est de vivre sous la grâce, de vivre en Jésus-Christ. Et c'est ce à quoi on est appelé. Lorsqu'on lit la Bible, on s'aperçoit que la parole, si la Bible elle est accompagnée de l'Esprit de Dieu dans nos vies, la parole libère du péché. C'est Jean qui dit, si on peut lire ça dans Jean 8 au verset 32, il est dit... C'est Jésus qui s'adresse aux Juifs qui avaient cru en lui. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres ou vous affranchira. Être affranchi, vous savez ce que c'est quelqu'un qui est affranchi? Autrefois, avec l'esclavage, c'était terrible. Hein? Mais parfois, un patron qui était peut-être bon, qui avait des esclaves, pouvait affranchir tel et tel esclave. Et il le faisait. Mais quand c'était des bons patrons, souvent les esclaves disaient « Non, je veux rester avec toi, parce que tu es un bon patron. » Mais ils n'étaient plus esclaves. Ils étaient capables de vivre, d'être libres, etc., etc. Parce que l'esclavage, c'est quand même quelque chose d'horrible. Eh bien, nous sommes sous un esclavage. Les hommes sont sous un esclavage qu'ils ne connaissent même pas. Et cet esclavage, c'est Satan. Les hommes sont prisonniers. Sont prisonniers du diable et Dieu veut libérer les hommes de cet esclavage, leur donner vraiment une vie libre. La parole a aussi un autre sens. J'espère qu'il n'est pas trop tard, hein, quelle heure il est là? C'est bon? La parole libère de Satan. Vous vous rappelez Jésus? Quand Jésus, après avoir jeûné 40 jours, il est au désert et le diable vient le tenter. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il ne se confronte pas avec le diable. Parce que Satan, il est malin hein, quand même. Il lui dit, ah, si tu étais le fils de Dieu, tu n'as qu'à dire à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Ça faisait 40 jours qu'il n'avait pas mangé. Hein? Déjà, il met en doute que c'est le fils de Dieu. Et c'est grave. Hein? Puis après, il lui dit, mais change la pierre en pain. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Il va simplement lui dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et pourquoi Jésus n'est pas blessé quand il dit « Si, tu es le Fils de Dieu ». Si quelqu'un venait aujourd'hui et vous disait « Ok, t'es sûr, t'es le fils de Tartampion, toi ?» Hein? Ben ouais. Hein? Mais si t'es le fils de Tartampion, tu pourrais faire ci ou tu pourrais faire ça. On est blessé si quelqu'un parlait de notre père comme ça. Hein? Moi, quand j'étais gamin, parce que je suis pas vraiment français, quoi. Hein? Ah, c'est le fils de l'Espagnol. J'ai envie de me débattre à ces gens-là quand j'étais gosse. Non, je suis pas le fils de l'Espagnol, je suis le fils de Marcelino García, qui est un homme à part entière. C'est ça la réalité. Mais Jésus, il s'est pas senti attaqué dans son identité. Il aurait pu. Mais il ne s'est pas senti attaqué dans son identité. Parce qu'il savait qui il était. Il savait qui était le Fils de Dieu. Alors, c'est là où c'est intéressant. Est-ce que vous êtes sûr de votre identité? Je ne vous parle pas de votre identité terrestre. Je ne vous parle pas de qui vous venez, de quel père, de quelle mère. Mais je vous parle de votre identité spirituelle. Et si vous êtes sûr de votre identité spirituelle, si je sais que je suis fils de Dieu à cause de Jésus-Christ, ça change tout. Ça change tout. Les gens qui viennent vous attaquer et vous agresser, vous dites, oh, tu peux dire ce que tu veux. Je suis fils de Dieu ou je suis fille de Dieu. Parce que Jésus est dans ma vie. Et ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas la même importance. On sait que le diable veut détruire l'œuvre de Dieu. On a Jean 10:10 qui le dit, hein, le voleur ne vient pas que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Dieu est venu dans ce monde pour nous sauver du loup, pour qu'on ait la vie en abondance. Il y a des versets extraordinaires. La parole sanctifie. C'est Jean 17:17. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La parole libère de la corruption et nous aide à nous rapprocher et à adorer Dieu. Waouh ! 2 Pierre 1, 3, 4. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fuyant la corruption qui existe par la convoitise. Ah oui, la corruption. Mettez quelqu'un en autorité qui n'est pas digne d'être en autorité. C'est là où on voit les vraies choses. Hein? Vous mettez un homme, vous lui mettez un habit de policier. Maintenant, il a une autorité. Il est là avec son autorité et qu'est-ce qu'il va faire ? Servir le pays ou se servir lui-même ? Il va se servir lui-même. Parce que dans son autorité, il va venir vous montrer qu'il a l'autorité et il va profiter de vous. Ça s'appelle la corruption. Ça s'appelle la corruption. Et malheureusement, ce monde est corrompu. Et c'est grave. Donc, on est appelé à fuir toutes ces choses-là. J'ai vu une vidéo très intéressante. C'est une voiture qui est sur un trottoir. Et puis, il y a une vitre qui est ouverte. C'est une belle voiture, hein, c'est genre, je ne sais pas, Jaguar ou je ne sais pas quoi. Et la vitre est ouverte. Puis il y a un SDF qui passe avec son baluchon. Il passe, puis il regarde dedans. Et dedans, apparemment, il y a des objets précieux. Le gars, il ne touche à rien. Il se retire, la vitre était ouverte. Il aurait pu prendre tout. Et il s'assoit sur le trottoir. Et il attend. On se dit, mais il fait quoi ce gars-là ? Après, tout de suite, on comprend, il dit, il est en train de protéger la voiture, que si quelqu'un vient pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur, lui va intervenir. C'est un SDF, un sans-abri, un gars qui aurait pu tirer profit de tout ça. Puis un gars qui arrive, et puis il lui dit, et le gars, il regarde dans la voiture, puis le SDF, il lui dit, mais c'est votre voiture, ça ? Le gars, il dit, non, c'est pas ma voiture. Puis il dit, qu'est-ce que vous allez faire ? Ah ben, je sais pas, c'est intéressant parce que à l'intérieur, il y a un ordinateur, ça vaut bien $500, il y a un beau téléphone qui en vaut autant, etc. Et puis, le gars, il commence à discuter avec lui, il dit, mais ça, ce sera un mauvais choix parce que vous allez prendre ces choses-là, mais c'est pas bien. Parce que le gars, dans son ordinateur, il y a sa vie, il y a ses photos, il y a sa musique, il y a tout ça. Et vous allez lui voler sa vie. Et il commence à discuter comme ça pendant un certain temps sur le trottoir. Et à la fin, le gars qui est venu en deuxième dit au SDF, en fait, c'est ma voiture. Et je voulais m'assurer vraiment de vos intentions. C'est pour ça que je me suis fait passer pour quelqu'un à qui la voiture n'appartenait pas. Et il dit au SDF, vous m'avez donné une sacrée leçon de vie, une belle leçon de vie, une belle leçon d'intégrité, de fidélité, de se donner pour son prochain, etc., etc. Et le gars l'a récompensé. C'est beau ça. Donc dans la vie, il y a deux chemins. Il y a le chemin de la corruption et il y a le chemin de Dieu. Et Dieu veut qu'on prenne son chemin et il nous aide à le faire. Et comment il va le faire ? Au travers de sa parole. Il va éveiller l'amour qui est en nous Il va nous montrer que nous sommes sauvés, il va nous donner la joie, il va vraiment se révéler comme étant le Seigneur au travers d'elle. Mais il faut la lire. Il faut la lire, il faut prendre du temps avec Dieu, il faut prendre du temps à entendre, à communiquer avec lui, d'avoir ce cœur à cœur avec lui. Parce que la parole de Dieu, c'est la fondation sur laquelle Dieu veut construire notre vie. Dieu construit notre vie sur sa parole. Parce que sa parole est la vérité, et la parole s'est faite chair, elle est venue dans ce monde, et c'est Christ. Notre vie doit être construite sur Jésus-Christ. Hein? Et ce qui est extraordinaire, c'est que sa parole nous donne vraiment l'espérance de passer l'éternité avec. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Pourquoi ? Parce que ce passage, ce verset, nous montre vraiment comme quoi Dieu met le point sur les i. Et il nous dit, la foi, elle vient de ce que Jésus vous dit. Pas de ce que vous avez cru découvrir dans la foi, mais dans ce que Jésus a fait et dans ce que Jésus vous dit. Et ça, c'est vraiment le point le plus extraordinaire. Donc, la foi, c'est quoi ? Hein, parce qu'on dit, bon, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, mais la foi, c'est quoi ? C'est croire ? Pas seulement, hein ? Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que la Bible nous dit quelque chose de très intéressant à ce sujet-là. Comment tu dis ? Oui, j'ai pas entendu. La Bible, elle nous dit ceci. Si tu crois, c'est bien. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. Mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Donc, la foi, c'est croire, mais il y a un élément en plus. L'élément en plus, c'est la confiance. C'est de dire, ok, d'accord, je crois que Jésus est non seulement le Fils de Dieu, qu'il a donné sa vie pour me sauver, je crois en cela, et en plus de ça, je vais lui faire confiance. Faire confiance à Dieu, c'est s'appuyer sur ce qu'il nous dit et de mettre en pratique ce qu'il nous dit. Et c'est comme ça que nous avançons. Amen. Je vais m'arrêter là. Hein? Vous en avez assez. Soyez bénis. On va prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole est la vérité. Ta parole, elle ne retourne pas à toi sans effet. Et nous te remettons ces instants, Seigneur, que les uns et les autres, nous puissions retourner dans nos cœurs ce que tu nous as dit aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que je crois que ces paroles viennent de toi. Je crois que c'est toi qui m'as inspiré dans cette affaire. Et je te demande de bénir les uns et les autres. Rafraîchis-nous, Seigneur. Merci. Qu'on puisse goûter aux fruits de l'esprit, à ta joie, à ta paix, à tout ce qui entoure tout cela, dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen.
Ça marche, non ?
Oui, ça marche. Tu peux y aller.
Ok, merci Denis pour ta parole. L'esprit vivifie, tu puisses encore.